Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission bi-hebdomadaire de VOA Afrique, Le monde au féminin. Nathalie Barge avec vous. Nous sommes avec Faïda Mwangilwa, militante des droits des femmes en République démocratique du Congo, consultante en genre, ancienne ministre en charge de la femme, fondatrice de plusieurs plateformes féminines. Merci beaucoup d'être avec nous dans Le Monde au Féminin de VOA Afrique.
Mes salutations aux auditeurs et auditrices de ce magazine Le Monde au Féminin.
Alors, votre carrière de membre influent de la société civile a commencé il y a plusieurs années. Pourriez-vous nous retracer votre progression vers le plaidoyer des femmes en République démocratique du Congo?
Merci beaucoup. Il y a effectivement plusieurs années que nous travaillons sur l'agenda du genre. Et en ce qui me concerne, j'ai commencé alors que j'étais à l'université. J'ai étudié à l'université de Kisangani. Vers les années 86-87, nos professeurs commençaient déjà à nous montrer combien il sera difficile, si jamais les choses ne changeaient pas d'ici 20 ans, aux filles d'étudier dans les universités. Il sera difficile par rapport aux moyens des parents qui auront tendance à privilégier l'éducation des garçons. Mais aussi les filles feront face à beaucoup de problèmes et nous avions commencé à les sentir. Parce qu'en 1986-87, il n'y avait plus de restauration au campus, il n'y avait pas de bourse. Donc, ce sont les étudiantes qui commençaient à préparer de la nourriture pour leurs frères, pour leurs copains. Et là, moi, j'ai trouvé ça anormal. Comment vous êtes parti étudier? Vous êtes un garçon, vous êtes une fille, vous étudiez, mais vous, parce que vous êtes fille, vous devez préparer pour votre frère. Et à Kisangani, à l'université de Kisangani, les hommes pour les étudiantes étaient seulement un, donc un bâtiment. Alors que les étudiants avaient d'autres bâtiments, avaient plusieurs bâtiments. Donc notre homme était devenu comme un marché. Les garçons pouvaient passer la nuit là-bas. Les gens qui venaient rester, soi-disant, je viens manger chez ma sœur ou chez ma copine. Et nous, nous avons commencé à défendre nos droits parce qu'on devrait aussi commencer à étudier dans nos chambres. Et nous avions d'ailleurs connu un incident parce qu'il y a une étudiante qui était sortie pour aller étudier à l'amphithéâtre et à son retour, elle a été violée. On a dit voilà, à 1h du matin, c'est l'insécurité. Nous devons en tout cas plaider nos droits pour que les étudiantes commencent aussi à étudier dans leurs chambres. Et nous avons mené ces plaidoyers. En fin de compte, c'était difficile. Le recteur nous a reçus. J'ai conduit la délégation et j'ai pris la parole, j'ai expliqué. Et voilà pourquoi nous avons eu gain de cause et les étudiants ne pouvaient plus entrer dans ces hommes après 20 heures. Et nous-mêmes, nous étions là pour que cette instruction soit respectée. Et j'ai continué ainsi. J'ai compris que le droit, il faut le défendre. Et surtout pour les filles à l'époque, il fallait absolument se défendre.
Vous voulez nous citer le travail d'une organisation féminine que vous avez créée?
Je peux bien sûr parler du travail d'organisation féminine. En tout cas, lorsque nous avons terminé nos études, en ce moment-là, il était difficile de trouver du travail parce qu'aussi quelques années après, avec la guerre qui avait éclaté au Rwanda, et avec l'arrivée massive des réfugiés rwandais dans la ville de Goma où je suis allée m'installer. Donc, on a eu des difficultés pour trouver de l'emploi. Et nous nous sommes dit, on ne doit pas croiser les bras. Nous sommes des intellectuels, nous devons participer à organiser notre société. Et on a donné la voix à la jeune fille et ce qui nous a poussé ensemble avec les amis de mettre en place une organisation dénommée action pour la participation de la femme au développement. Je dois vous avouer que l'ONG continue, mais beaucoup d'entre nous sont partis. Nous avons peut-être eu des difficultés pour préparer la relève, mais c'est le travail que je suis en train de faire du moment où je me prépare aussi pour la retraite, parce que c'est un travail qui demande, qui exige beaucoup de sacrifices. Donc, vous devez amener les autres à prendre les responsabilités. Vous devez éveiller les autres, amener les autres à avoir l'esprit d'initiative. Donc, ça demande vraiment un engagement. Ça demande un engagement pour plaider la cause des autres, la cause de toutes ces femmes qui sont chassées de leur foyer sans autre mesure, la cause de toutes ces jeunes filles qui sont violentées dans les milieux de travail. Donc, c'est un travail aussi difficile, mais qui demande de préparer la relève.
Faïda Mwangilwa, un mot sur votre passage au gouvernement en tant que ministre en charge de la promotion de la femme et de la famille.
Oui, je suis passée par le gouvernement où j'ai eu la charge de conduire le ministère en charge du genre, famille et enfants en 2003. Donc, les institutions de la transition étaient mises en place en juin 2003. Donc, vous êtes là, on vous nomme à la tête d'un ministère et qui venait presque de commencer, parce que ailleurs, les autres ont fait des remises et reprises avec des ministres qui étaient là où vous avez un bureau, vous avez un véhicule, vous avez un ordinateur, mais moi, je n'ai pas eu cette grâce-là. J'ai commencé un nouveau ministère dans le néant. Donc, vous n'avez pas de bureau, vous n'avez pas de chaise. Je me rappelle, c'est un ami qui m'a amené un ordinateur. L'ordinateur que j'ai commencé à utiliser à partir de la chambre d'hôtel où on était logé au Grand Hôtel de Kinshasa. C'est un ami qui a donné cela au ministère à titre personnel, mais je vous dis, ça n'a pas été facile. Donc, il a fallu d'abord travailler pour asseoir le ministère, mais aussi le programme au niveau de ce ministère, là où les gens pensaient que c'était un ministère pour venir danser, pour les autorités et tout. Donc, il a fallu concevoir des programmes, concevoir des documents de politique. Donc, nous avons eu à concevoir les documents de stratégie d'intégration du genre dans les politiques et programmes du gouvernement. Et là, ça nous a donner un peu plus d'avantages parce que nous avions en même temps commencé à mobiliser les ressources. Ce ministère n'a pas assez de ressources, malheureusement, au niveau du trésor public. À l'époque, il avait, si j'ai bonne mémoire, le budget accordé à ce ministère était de 0,08 du budget national. Donc, ce n'était même pas 1%, 0,08. Et même pour avoir accès à ce montant-là, c'était difficile. Donc, il a fallu développer d'autres stratégies pour mobiliser les ressources.
Malgré ces conditions de travail, quel genre de programme avez-vous pu réaliser?
Alors, pour autant que le ministère en charge du genre était aussi impliqué dans la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, mais surtout aussi dans la lutte contre le VIH-Sida, où le ministère avait la charge de la deuxième vice-présidente. Nous avions développé un programme et le cellule du ministère en charge du genre dans le cadre de la lutte contre le sida, c'était un ministère qui a bien travaillé, qui était assis, qui a mobilisé les ressources, qui a pu aider les enfants affectés par le VIH-Sida, donc les enfants qui ont perdu leurs parents, à être scolarisés. Et là, nous l'avons fait. Mais aussi, ça a permis de mobiliser ressources dans le cadre de budget PPT, pays pauvres et très endettés, avec le concours du collègue à l'époque du ministère du Plan. Nous avons obtenu un fonds pour construire la maison de la femme, disons des maisons des femmes en province du Nord Kivu, dans le Maniema, et ici à Kinshasa, au niveau du centre mère-enfant de Ngaba. Donc, c'est pour vous dire que c'est la volonté qu'il fallait pour asseoir un ministère, mais je dois aussi dire que les organisations de la société civile m'ont été d'un grand apport. On a travaillé en collaboration, on a établi des liens de collaboration, même dans le cas de la lutte contre les violences sexuelles, nous avons travaillé avec les agences des Nations Unies, les ONG internationales, dans l'initiative conjointe de lutte contre les violences sexuelles. Et c'est là d'ailleurs qui nous a conduit, entre autres, comme résultat, à présenter le projet de lutte contre les violences sexuelles qui finalement a été adopté en juillet 2006. Donc, voilà un peu comment on a évolué.
Faïda Mwangiloua, vous vous êtes présentée deux fois aux élections législatives nationales et une fois aux sénatoriales. Vous avez en 2021 dénoncé l'absence de femmes à la tête d'institutions politiques. Malgré les nombreux efforts pour promouvoir les femmes en politique au poste électif, les résultats des dernières élections en décembre 2023 montrent peu de progrès des femmes. Comment l'expliquez-vous et que préconisez-vous pour une représentation équitable des femmes au poste électif et nominatif?
Je dois vous dire que la présence des femmes dans les instances de prise de décision reste un problème capital en République démocratique du Congo et qui fait face à plusieurs pesanteurs et tout. Donc, je parle de pesanteur culturel. Et là, lorsque je suis allée aux élections législatives nationales en 2006, aux élections sénatoriales en 2007, aux élections législatives nationales en 2011, en 2018, moi, personnellement, j'ai toujours échoué. Mais je ne baisse pas les bras. En décembre 2023, je ne me suis pas présentée aux élections, mais nous avions dénoncé à l'époque, en 2021, l'absence des femmes à la tête des institutions. Pendant la législature 2011 jusqu'à même en 2018, à la tenue des élections, nous avions eu une femme à l'Assemblée nationale qui était à la tête vraiment de cette institution, qui est la deuxième institution du pays. Et nous, en tout cas, nous étions fiers. Elle a travaillé, elle a donné le meilleur d'elle-même, elle a donné la voix aux femmes, elle a travaillé avec les organisations féminines, parce qu'avant d'être à l'Assemblée nationale, je parle bien de Madame Jeanine Mabunda, elle a été la conseillère spéciale du chef de l'État en charge des questions de violences sexuelles. Donc nous continuons à dénoncer cette absence des femmes parce que les gens considèrent que, beaucoup de gens considèrent que la parité c'est une faveur. Non, la parité c'est un droit. Vous ne pouvez pas être dans une nation qui est représentée par plus de 51% de femmes comme population. Les femmes représentent 51% de la population congolaise. Comment on peut mettre de côté toutes ces femmes en dehors des institutions? Ce n'est pas normal. Je l'ai toujours dit, c'est l'un des facteurs du sous-développement. Le développement d'un peuple ne dépend pas des ressources minérales ou quoi. C'est d'abord les ressources humaines. Ce sont les ressources humaines, une fois bien utilisées, qui transforment une société. Et moi, je crois franchement à la participation de la femme comme réponse à la gouvernance, au développement de ce pays. Et je pense que nous devons continuer ainsi.
Vous avez participé au processus de négociation intercongolaise ayant abouti à la signature de l'accord global et inclusif du 16 décembre 2002. Plus de deux décennies après, de nombreux groupes armés sont toujours actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. Que faire selon vous pour désarmer ces groupes et assurer la paix durable dans cette région frontalière?
Oui, j'ai participé au processus de négociation politique intercongolaise. On a commencé à Gaborone, on est allé à Addis Abeba, on est allé à Sun City. Mais avant cela, nous, comme femmes, en 2002, nous nous sommes retrouvées en février à Nairobi pour élaborer notre agenda des femmes de toutes les tendances. Et pendant ce temps, les institutions ont été mises en place. Il y avait des mandats accordés à ces institutions de la transition qui avaient une mission, notamment restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, former une armée nationale restructurée et intégrée et bien sûr organiser les élections. Mais je comprends qu'il y a une mission qui jusqu'aujourd'hui n'a pas encore été atteinte totalement et c'est le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Parce que continuer à avoir des groupes armés qui torpillent la bonne marche du pays, c'est un problème. Et que faire pour désarmer tous ces groupes? Moi, je dis toujours, pour autant que nous n'entrons pas dans le processus du développement, nous aurons toujours des problèmes. Parce que quand vous regardez ces groupes armés, beaucoup plus leurs membres, ce sont des gens qui n'ont pas trouvé d'ouverture dans la société. C'est plus les enfants des cultivateurs, c'est plus les enfants des personnes qui n'ont pas bénéficié des services de l'État. Un enfant qui a étudié, qui a terminé ses études, qui a eu d'opportunités pour travailler, comment vous allez l'avoir pour être un militaire de rang? Donc, il y a à boire et à manger au sein des groupes armés. Il y a ceux-là qui disent qu'ils défendent le pays, mais il y a aussi d'autres, par manque d'encadrement, au niveau des familles, au niveau des communautés, et voilà comment ils intègrent les groupes armés. Donc, la première solution, c'est rétablir l'autorité de l'État et créer beaucoup d'emplois. Je suis très déçue lorsque j'entre dans nos prisons, ce plus des jeunes, alors que ces jeunes devraient se retrouver dans les entreprises, dans les usines et tout. Mais ils se retrouvent au sein des groupes armés ou dans des prisons. Donc, il y a lieu d'avoir des programmes d'encadrement des jeunes, des programmes de gouvernance, de lutte contre l'impunité, parce que quand vous tuez, quand vous violez, à un certain moment, il faut rendre compte, il faut répondre de ces actes. Et là, il faut que notre justice, en tout cas, soit aussi renforcée.
Faïda Mwangiloua, vous êtes consultante en genre et vous faites le plaidoyer pour la participation des femmes dans les négociations de paix. Que conseillez-vous justement sur cette question?
Oui, actuellement, j'assume comme travail de consultance sur terrain et vraiment ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et là, moi j'ai dit, il faut voir comment intégrer les femmes dans le processus de négociation politique, les pourparlers de paix, les médiations. Vous avez beaucoup de femmes qui ont des capacités et qui peuvent aider notre pays à se relancer, à construire la paix. Mais très souvent, autour de la table de négociation, vous trouvez les hommes, vous ne trouvez pas des femmes, alors que ce sont ces femmes qui sont des victimes, qui connaissent les problèmes de manque de sécurité, de paix, et qui peuvent construire, travailler pour la paix. Il ne faut pas prendre la question de paix comme la question réservée aux hommes. C'est réservé à l'ensemble de la communauté. Quand toute la communauté comprendra que nous devons nous préoccuper de notre paix, ces communautés, en tout cas, développeront des intuitions pour dénicher le mal et construire une paix durable au niveau de notre pays, la République démocratique du Congo.
Toujours dans le même registre, les violences contre les filles et les femmes perdurent dans les zones en conflit. En attendant que la violence armée cesse définitivement, qu'est-il entrepris pour les protéger et quels sont les besoins urgents?
Avant de mettre définitivement fin aux conflits armés, à la base souvent des violences sexuelles et basées sur le genre, oui, il y a beaucoup de besoins au niveau des femmes. Et le premier besoin, c'est le besoin de justice. On doit doter notre justice de moyens. Il faut avoir un petit problème arriver au niveau d'une instance judiciaire et comprendre que nous avons des problèmes. Les problèmes commencent par le manque de moyens de fonctionnement, mais aussi les conditions de travail et de vie des magistrats. Ça doit être une priorité. Et lorsqu'on aura aussi des magistrats formés, on intégrera beaucoup de femmes au sein de la magistrature et de femmes qui connaissent comment travailler dans le sens positif des choses, il y aura possibilité de mettre fin aux violences sexuelles basées sur les genres. Nous avons aussi cette question d'indemnisation des victimes. Ça reste aussi une voie de sortie. Beaucoup de femmes qui dénoncent et ça permet aux organisations de traduire les présumés auteurs en justice, et lesquels dossiers aboutissent même à des condamnations, à des jugements rendus, mais malheureusement, il n'y a pas d'indemnisation. Comment ces femmes vont continuer à dénoncer? La plupart, elles recourent à l'arrangement à l'amiable des questions de violence, alors que l'arrangement à l'amiable n'est pas autorisé. Donc, il y a vraiment des choses à faire à ce niveau-là.
Pour terminer, vous nous dites un mot sur le développement économique. On sait qu'il existe des programmes consacrés notamment à l'autonomisation des femmes et des jeunes, mais sont-ils accessibles au plus grand nombre? Et sinon, comment les étendre au sein de diverses communautés?
Pour le développement économique, effectivement, il y a des initiatives et des programmes qui sont appuyés par les agences des Nations Unies, les ONG internationales pour l'autonomisation des femmes. Mais je vous dis, les besoins sont immenses. Les besoins sont immenses. Pour autant qu'on n'a pas réussi à créer une classe moyenne, vous pouvez appuyer une femme. Elle arrive à se prendre en charge, à prendre en charge le besoin de sa famille, mais vous allez voir avec le temps qu'elle aura des problèmes au niveau de son environnement. D'abord, son environnement immédiat. Si elle est mariée, le mari va commencer à lui créer des problèmes, donne cet argent. Je fais des enquêtes sur terrain. J'ai le temps de parler avec les femmes et ça me donne l'occasion de comprendre combien ces femmes font face à beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Quand elles bénéficient d'un crédit, c'est l'environnement immédiat qui pense qu'elle a l'argent à donner à tout le monde. Et quand il y a un malade, il y a un décès, il y a quoi? Elle doit prendre cet argent. Et pour rembourser, ça pose problème. Il y a des femmes pour qui il y a des appuis en termes de matériel d'agriculture, par exemple. Et dans certaines zones, bien qu'on les a appuyées, quelques temps après, il y a encore recrudescence de l'insécurité. Il y a encore des groupes armés, des rébellions qui se créent. Moi, je pense qu'il faut voir de l'avant. Comment maintenant réaliser ce programme d'autonomisation? Effectivement, il faut l'étendre à plus de communautés. Quand j'ai dit qu'il faut créer une classe moyenne, ce ne sont pas des programmes d'appui qui pourront aider cela, mais si au niveau du gouvernement, on développe des programmes dans les villages, on essaye vraiment d'être équitable dans la distribution des richesses à travers l'ensemble du pays, parce qu'il y a de l'injustice quelque part, il y a des milieux où il n'y a pas d'école, il n'y a pas de dispensaire. Comment vous pouvez développer, vous pouvez pousser les femmes à une autonomisation dans ces coins? Donc il faut une programmation en termes de priorités, et là nous pouvons construire une classe moyenne et développer les femmes.
Faïda Mwangilwa, militante des droits des femmes en République démocratique du Congo, consultante en genre, ancienne ministre en charge de la femme. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien pour le monde au féminin de VOA Afrique. À très bientôt et bon courage.
Merci beaucoup pour votre attention tout à fait particulière.
Merci beaucoup d'avoir écouté Le Monde au féminin de VOA Afrique. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.